Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le DGA. Et pour parler de ce sujet, nous recevons Ronan Mouchon.
Bonjour. Alors,
pour discuter de cela, avec lui, eh bien, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Sébastien Gerlia.
Bonjour.
Sébastien Larigné.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Ronan, le DGA, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ?
Alors DGA, c'est l'acronyme de Domain Generation Algorithm. Donc ce sont des algorithmes qui sont utilisés par les logiciels malveillants pour contacter leur serveur de command and control et échapper aux méthodes traditionnelles de détection de trafic malveillant réseau, donc notamment basé sur les blacklists de nom domaine ou les blacklists IP. Donc au début, les malwares utilisaient plutôt un seul serveur de command and control, une IP, un domaine, et pour rester de plus en plus résilient, éviter donc à la fois les blocages par les solutions de sécurité ou les takedowns par les forces de police. Ils ont évolué, donc on a entendu parler de botnets communiquant via peer-to-peer, de botnets communiquant via Tor, par réseaux sociaux, donc par tweet ou statut Facebook, par le fast-flux, qui consiste à faire tourner très rapidement des adresses IP résolvant un nom de domaine, et les DGA. Donc en fait, le DGA, ça consiste en la génération d'une chaîne de caractères. Donc la plupart du temps, c'est une génération aléatoire où ils vont prendre des caractères de l'alphabet et parfois numérique pour créer une chaîne de caractères et ensuite y accoler une extension, un TLD, un top level domain, donc .com, .ru. Ils vont en générer du coup plusieurs par jour. Donc si par exemple on reverse l'algorithme, puisque du coup c'est un algorithme qui est à l'intérieur du client infecté, le client chaque jour pour récupérer une config, pour communiquer, etc., va générer toutes les chaînes de caractères qui sont solution en fait du problème mathématique posé. Donc ça peut donner une centaine de noms de domaines possibles, voire des dizaines de milliers. Et ensuite, il va en contacter une portion ou un seul qui est effectivement déposé.
Donc ça se traduit comment, par exemple, dans les logs DNS ?
Dans les logs DNS, donc en fait, il faut imaginer du coup que le client, admettons, il avait un configure version C sur sa bécane. Donc c'était 50 000 noms de domaine possibles par jour. Et donc les machines, du coup, elles en prenaient 500 des possibilités. Elles les contactaient tous. Et quand une résolution, quand il y avait une réponse DNS, qu'il avait une adresse IP, du coup, il commençait à contacter. Donc, c'est-à-dire au niveau réseau, ce qu'on va observer, c'est énormément de requêtes DNS, mais surtout énormément de réponses qui disent no such name ou NX domain.
D'accord. Comment est-ce que, tant que tu as fait des travaux pour essayer de détecter ce qui différenciait un nom de domaine légitime d'un nom de domaine malveillant?
J'avais exploré une approche. Donc en fait, il y a plusieurs approches pour détecter les noms de domaine. Donc la plus courante, on va dire, c'est justement de regarder les réponses NX domaine. Parce que ça peut arriver dans un cas très légitime, on se plante de nom de domaine. La résolution DNS ne se fait pas et on a un NX domain. Donc on peut partir du principe que au sein d'une organisation, chaque équipement, que ce soit un serveur ou chaque équipement effectuant la résolution DNS, a un nombre de NX domaines moyen par jour. Et du coup, en regardant justement ces différences-là, où en temps normal, on va dire que c'est 10 NX domaines par heure, par jour, et là, on en est à 400 en 3 minutes, du coup, ça peut être un indicateur de détection. Donc derrière, il y en a d'autres. Et moi, en fait, j'étais parti du principe. Donc c'était pour les DGA créés à partir d'un alphabet. Et en gros, mon approche était de dire, si le domaine n'est pas lisible, n'est pas prononçable, n'est pas lisible, dans ce cas-là, il y a de grandes chances que ce soit un DGA. Et donc, en fait, du coup, j'ai exploré des algorithmes phonétiques qui me permettaient de voir en fait si le mot, enfin la chaîne de caractères était prononçable ou pas. Donc ça marchait, on va dire, assez bien. Donc c'est un test qui avait été réalisé sur un réseau de grandes entreprises françaises. Donc ça marchait assez bien puisque du coup il faut faire, on va dire, des petites analyses statistiques, regarder les lettres rares en français, par exemple, le Z, le Q, le K, qui ont beaucoup moins de chances d'apparaître qu'un E, qu'un T, qu'un S. Et ensuite, du coup, en regardant la distribution des lettres dans la chaîne de caractères, on peut aussi observer ce genre de choses-là. Le problème pour, par exemple, le côté prononciation, donc comme j'avais basé principalement mon algorithme sur des métriques faites à partir de langage, on va dire, romain, latin, le jour où quelqu'un m'a donné un gros dump de trafic européen, tous les noms de domaine polonais et tchèque, je les flaguais. Parce qu'en fait, la répartition des lettres ne correspondait pas au pattern du français, de l'espagnol, de l'anglais et même de l'allemand.
Tu évoquais aussi un cas d'utilisation de DGA de façon légitime.
Ouais. Alors, je me suis peut-être un peu avancé. J'ai cherché. On va dire qu'en DGA légitime, il y a deux catégories, on va dire. Il y a les gros faux positifs et vraiment la mise en place d'un algorithme de génération de chaînes aléatoires pour créer un nom de domaine à des fins légitimes. Donc, en fait, ça, c'était un problème aussi que j'avais rencontré lors de la réalisation de mon algorithme. Et en fait, par exemple, il y a Google Chrome. Donc, quand vous le lancez, si vous avez des onglets déjà ouverts, Google Chrome va déjà faire les requêtes DNS pour pouvoir vous afficher les pages quasiment dès que Google Chrome est ouvert. Mais il y a une petite fonctionnalité pour détecter ce qu'on va appeler les DNS menteurs ou les rogue ISP. C'est-à-dire, par exemple, vous tapez un nom de domaine qui n'existe pas, votre ISP, donc votre fournisseur d'accès à Internet, en partant du principe que vous utilisez leur DNS, lui, au lieu de vous répondre NX domaine, par exemple, il va vous rediriger vers une de ses pages ou une page partenaire ou des pages remplies de publicité. Et donc, en fait, en générant des noms de domaine aléatoires au démarrage de Google Chrome. Donc, Google Chrome envoie trois noms de domaine, essaye de faire une résolution sur trois noms de domaine aléatoires. Et s'il a une réponse, s'il a autre chose que du NX domaine, en fait, il y a des chances que l'utilisateur de ce browser utilise un fournisseur d'accès à Internet ou en tout cas un serveur DNS rogue, menteur.
D'accord, intéressant. Et dans ces cas-là, alors, que fait Google Chrome ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai jamais eu ce genre d'alerte, en tout cas.
Non, vas-y, pardon.
Non, et puis après, on va dire plus dans... pas vraiment où il y a un algorithme de génération aléatoire de noms de domaines, mais où il y a des noms de domaines qui ont des têtes vraiment qui ressemblent à du DGA. Là, par contre, il y en a plusieurs cas vraiment légitimes. Donc, le premier qu'on pourrait donner, c'est la génération d'un nom de domaine Tor, d'un FQDN, d'un Hidden Service, puisqu'en fait, je crois que c'est généré à partir d'une portion de la clé publique. Donc, ce n'est pas de la génération aléatoire. Il y a une très, très forte entropie dans le nom de domaine, mais c'est une partie de la clé privée. Ensuite, les International Domain Name, donc en fait, qui permettent de taper des noms de domaine en arabe, en russe, en chinois, en ce qu'on veut. Sauf que quand on retransforme en caractère latin, donc ça a des têtes du genre XN-, et derrière un gros bruit bien anthropique. Et en fait, bah non, derrière, ça peut être du français avec des E accent aigu, etc. Donc là aussi, ça a des têtes de DGA. Mais bon, dans ce cas-là, il suffit de faire un match sur les quatre premiers caractères de la string. Si c'est XN-, on peut penser que c'est un faux positif. Ensuite, alors je crois, je ne suis pas très très sûr, donc c'est là où un spécialiste du DNS aurait été bien, enfin du DNSSEC plutôt. Donc toujours un petit peu dans l'histoire des NX domaines, en fait dans DNSSEC, je crois qu'il y a une fonctionnalité, donc c'est NSEC et NSEC 3, qui en fait authentifie le fait qu'il y a un MX domaine, en gros, qu'un nom de domaine n'existe pas. Et du coup, il y a ça marche par hash, une histoire comme ça. Et en fait, bah, du coup, après, il y a tous les dérivés où on va avoir des hash MD5 ou SHA-1 pour X raisons dans un domaine ou un sous-domaine, plutôt. Donc là, je crois que pendant un moment, il y avait des mises à jour, par exemple d'antivirus, pour en citer un, McAfee, qui avait des sous-domaines extrêmement aléatoires, donc est-ce qu'ils s'en servaient comme clé ou pour quelque chose. Mais après, du coup, oui, on peut se retrouver avec des hashes dans des sous-domaines, qui dans ce cas-là, feront qu'une analyse statistique sur la fréquence d'apparition des lettres, ce genre de choses-là, ou même de prononçabilité du nom de domaine ne marchera absolument pas.
Les faux positifs de type DGA sur les antivirus, c'était aussi fait pour par exemple, si un nom de domaine, un serveur DNS donne des fausses informations ou bloque par exemple des mises à jour McAfee pour d'antivirus. Là, c'était le cas de McAfee, par exemple. Justement, de pouvoir bypasser ça et de pouvoir continuer, justement, les mises à jour sur un réseau qui n'est pas forcément safe. Et passer aussi les différents proxys, parce que, une des applications du DGA, justement, c'est de bypasser les différents proxys. Donc, utiliser, entre guillemets, les techniques de malware, mais là, pour le coup, pour les combattre.
D'accord. Dans le cas, par exemple, où le malware modifie, par exemple, le fichier etc host pour faire en sorte que la machine ne se mette plus à jour, eh bien, ils utilisent du DGA pour retrouver non pas le CNC, mais là, le serveur de mise à jour pour pouvoir récupérer la mise à jour.
Exactement. C'est exactement ça. Typiquement, Configure, c'est ce qu'il faisait. Il modifiait le DNS cache pour empêcher justement les mises à jour des différents antivirus.
Et donc Renan, alors quid des DGA générés par dictionnaire?
En fait, les DGA générés par dictionnaire, c'est une variante, on va dire, de la génération à partir d'un set de caractères, donc AZ09 par exemple, où là, on a l'alphabet en fait est composé de mots. Et ils vont être concaténés ensemble pour donner au final un nom de domaine qui va ressembler à quelque chose avec des mots, avec de la prononçabilité, avec une entropie du coup de l'ordre du langage dont sont issus les mots. Et donc ça, je crois que le premier à avoir fait ça, c'était Bayrob en 2013. Et ensuite, il y en avait un du coup, qui a été un peu plus connu et qui c'était un peu plus marrant, c'était Rovnix, qui en fait se connectait sur un site qui donnait la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et à partir de là, il recombinait quelques mots et ça donnait, il créait en fait ces noms de domaine générés aléatoirement à partir de bouts de mots piqués dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il y en a d'autres, parce qu'en fait, du coup, les DGA, ils peuvent être créés, ils sont créés avec une clé, en fait. Donc l'algorithme de génération, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il ait un seed, une clé au début. Donc souvent, ce qui est utilisé, c'est la date. Donc en fait, l'algorithme, il récupère du coup la date sur la machine cliente. Il va effectuer son algorithme et ça va lui sortir les bons domaines. Mais après, il y a d'autres variantes. Donc il y en a un, le malware, dont je ne retrouverai plus le nom. Qui en fait se basait sur les trend topics Twitter. Et à partir de là, il effectuait sa dérivation et il obtenait sa génération. Et donc en fait, bah, c'est là où en fait, quand on a la chance d'obtenir un code ou un sample de ce genre de malware, bah, c'est là où les reverseurs et les malware analystes vont jouer enfin pour ceux qui font de la détection réseau, vont jouer un rôle très très important puisqu'ils vont être capables de reverser l'algorithme, le comprendre. Comprendre en gros le champ des possibles du résultat, comprendre la clé, et ensuite bah, pouvoir prédire bah, pour tel jour ou alors bah, tous les domaines possibles, les voici. Et ensuite, bah, on peut les rajouter soit dans des blacklists, soit on va les enregistrer en avance pour faire du syncall, soit voilà. Une fois qu'on a cette connaissance, ensuite on en fait ce qu'on peut.
Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le syncall?
Oui, alors un syncall, c'est quand on a un nom de domaine qui a été utilisé à des fins malveillantes, enfin un serveur plutôt qui a été utilisé, non, un nom de domaine qui a été utilisé à des fins malveillantes, du coup, c'est quand soit des chercheurs en sécurité, soit les forces de l'ordre, vont reprendre l'enregistrement de ce nom de domaine à leur compte, pour eux. Donc soit parce que le domaine a expiré, les attaquants ont oublié de le réenregistrer, soit parce qu'ils ne l'avaient pas encore enregistré, donc comme ça peut être le cas pour les DGA, soit alors bah, il y a eu une force légale, entre guillemets, une légitimité légale de le faire. Et donc une fois qu'ils ont la main sur le nom de domaine, ils le redirigent vers une de leurs adresses IP à eux. Et comme ça, en fait, tous les clients, enfin, toutes les victimes qui n'ont pas été désinfectées et qui continuent à contacter le nom de domaine vont donner en fait des informations non pas aux attaquants, mais ils vont les donner aux chercheurs ou aux forces de l'ordre. Et ça permettra d'avoir une vision un petit peu bah, de qui est infecté, de quel pays ça vient, de quelle commande ça envoie, etc., etc.
Alors, pour revenir sur le DGA, est-ce qu'on peut dire que la caractéristique en fait d'une machine compromise, ou plutôt la caractéristique du DGA, c'est de voir dans les logs DNS un grand nombre de requêtes en un temps relativement limité avec une bonne partie des requêtes qui n'aboutissent pas?
Bah, c'est aujourd'hui une des méthodes les plus fiables, ouais, et la plus largement répandue pour détecter le DGA. Donc, bah, du coup, c'est de l'analyse comportementale, effectivement, sur les anomalies de requêtage DNS. Donc, vraiment, quand on a plus de 1000 ou 2000 NX domaines par jour, c'est vraiment très bizarre à partir d'une machine. Il y a vraiment un comportement anormal. Donc ensuite, c'est peut-être autre chose qu'un malware, mais en tout cas, il y a un problème.
Donc, il suffit de lancer une analyse de tes logs DNS et de chercher les enregistrements NX, quoi, si tu les logs.
Oui, alors déjà, si tu les logs, effectivement. Et en fait, il suffit, on va dire, basiquement, oui. On regarde qui est-ce qui fait les requêtes DNS, quel est le volume et la proportion des NX domaines. Mais ensuite, il suffit, ça dépend sur quel parc, Donc effectivement, c'est pas logué. Des fois, vous allez avoir des communications DNS que vous allez pouvoir voir, mais avec des proxys DNS ou reverse DNS, bah, en fait, vous ne saurez pas la source, la vraie machine infectée. Vous allez vous retrouver avec un serveur DNS qui reçoit des NX domaines depuis son père ou son référent. Donc, et ensuite, bah, y a la volumétrie. Sur un très très grand parc, faire de l'analyse comme ça, donc faire du matching sur le NX domaine et récupérer tous les NX domaines, pourquoi pas. Mais ensuite, il va falloir lancer du statistique, etc. Donc en fait, c'est toujours la montée à l'échelle de la détection, du moyen de détection qui est difficile. C'est toujours ce problème-là qu'on retrouve de toute façon en sécurité.
Mais au final, la meilleure technique, c'est quoi? C'est d'essayer de détecter, par, à ton avis, par l'analyse de log ou par plutôt une analyse réseau ou... Enfin, qu'est-ce qui marche le mieux à ton sens?
Bah, il y a pas. Enfin,
les DNS en entreprise aujourd'hui, ils sont entre guillemets. Enfin, si on prend certaines entreprises qui ont segmenté, qui ont des réseaux privés, qui ont plein de choses, qui ont des proxys, des firewalls, des WAF dans tous les sens, tu fais appel au DNS interne. Le DNS interne, il y a peu de chances qu'il aille tenter de résoudre des choses sur, je dirais, des choses inconnues qui n'ont pas
oui,
été dans la liste de filtrage, quoi.
Oui, oui, bien sûr, mais après, là, on est dans le cas, on va dire, d'un DNS interne, hein, sauf que quand il y a un réseau et que les machines doivent sortir sur Internet, il y a forcément une interface pour pouvoir transmettre ce genre de requête-là. Et un DNS local ne peut pas savoir, en plus, a priori, avant d'avoir fait la requête, que le domaine n'existe pas. C'est justement une fois qu'on a reçu le NX domaine que le DNS sait que bah, ça n'existait pas.
Ouais, ok.
Et ensuite, bah, du coup, pour répondre à ta question d'avant, quelle est la meilleure technique? Après, donc, je pense que, comme dans tous les milieux de la sécurité, il n'y a pas une technique miracle. C'est une combinaison de best et fort. Donc, ça peut être donc, effectivement de l'analyse de log. En temps réel, si on a les moyens, si on a les performances, enfin, on a les machines, on a les gens pour, à la fois pour regarder la sortie, mais aussi pour créer le back-end. Donc il va y avoir les logs a posteriori, il va y avoir ce qui va venir de la communauté, donc des gens qui ont rencontré avant vous ce problème-là et qui l'ont déjà partagé. Faut boucher un peu, faut colmater un peu comme on peut, bah, enfin, au final ce qu'on fait toujours.
Typiquement, c'est ce qui s'était passé sur CryptoLocker, où les chercheurs avaient reversé l'algorithme, et grâce au reverse de l'algorithme, les équipes de détection ont pu dériver l'ensemble des noms de domaine pour pouvoir les bloquer dans le temps, quoi. En avance de phase. Parce que c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est d'arriver à les bloquer en avance de phase.
Mais après, c'est pareil, les bloquer en avance de phase, ça pose ensuite, on va dire, plus des problèmes de gestion des règles.
Ouais, c'est ça.
On va les bloquer, mais derrière, voilà, on prend un très vieux exemple, mais ConfigureC qui produisait 50 000 possibilités par jour, si on a les 6 prochains mois, c'est bien, mais... combien déjà de lignes ça va rajouter, quel va être l'impact sur la performance, et surtout, quelle est la maintenabilité de ce genre de liste, de blacklist, ouais. Au final. Ça reste extrêmement statique.
Oui,
évidemment. Visiblement,
sur CryptoLocker, l'algorithme était bien moins anthropique que celui de configure. Donc là, a priori, c'était plus jouable. Mais ouais, effectivement, comment, des volumes à 50 000 domaines par jour, faut commencer à avoir une infra qui tient la route, quoi.
Hervé, est-ce que tu as une question sur le DGA?
Non, mais je pense que le fait d'avoir rétro-ingénéré CryptoLocker pour pouvoir prévoir à l'avance tous les noms de domaine qu'il va calculer, c'est quand même redoutablement utile, parce que le nombre de gens qui n'ont pas une sauvegarde à jour et qui se font avoir par CryptoLocker est véritablement très important en entreprise. Donc, c'est un super boulot, très utile.
Mais c'est vrai qu'après, bah, du coup, ce travail contrôlé des DGA, en gros, ne bénéficie que aux employés ou aux personnes d'une entreprise ou d'une organisation. Donc c'est hors de portée, on va dire, de la plupart des particuliers en général. Les particuliers ne, enfin, peuvent, je pense, très difficilement se protéger contre le DGA.
Non, mais déjà, s'il y a un bon partage intelligent entre les CERF, ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait le cas, bah, ce serait bien.
Ouais, mais après, combien de certes parlent aux particuliers, à Madame Michu?
Oui, non, non, mais de toute façon, on ne peut rien faire pour les particuliers.
Ouais.
Bon, après, c'est
Là, on
à
est
eux de
d'accord.
changer de système d'exploitation aussi, hein.
Oui, et comme ça, quand tout le monde sera passé sous Linux, les malwares font tous du Linux.
Disons que quand ils seront tous passés sur Mac, il y aura CryptoDocker pour Mac.
Bon, et eh bien, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. La semaine prochaine, dans la continuité de ce sujet, un épisode sur le FastFlux. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut!
Bonsoir,
merci, au revoir.